France Culture.
Tout de suite, Marie Sorbier est là pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour à tous. Lieu culturel voulu par Emmanuel Macron, la Maison des Mondes Africains, Mansa, a ouvert ses portes en octobre dernier à Paris, après de nombreux rebondissements, notamment pour trouver enfin un espace où l'implanter, et avec l'ambition de propager la parole afro-descendante 60 ans après les indépendances. Cette maison, qui aspire à devenir le pendant pour l'Afrique de l'Institut du Monde Arabe, est devenue pour le président Macron un des axes de sa diplomatie culturelle en direction d'un continent où l'influence française est en recul. Une maison des mondes africains à Paris, pourquoi faire? C'est le dossier du Point Culture du jour. Lise Gomis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de Mansa, la maison des mondes africains. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter cette maison? On l'a souvent annoncée, on a annoncé qu'elle changeait de lieu, mais ça y est, maintenant elle est vraiment ouverte.
Exactement, elle est ouverte donc depuis le 4 octobre. Et donc Mansa est un établissement culturel pluridisciplinaire au cœur de Paris, donc situé métro Goncourt à deux pas de la place de la République et de Belleville. Et donc c'est un établissement national, public, qui parle de la création contemporaine africaine et de ses diasporas, et vraiment de ses diasporas au sens très large. Donc on part de la Caraïbe, des Amérique, évidemment du continent africain, mais également de la diaspora qui vit en Europe. Et voilà, on n'oublie personne au passage.
Mais alors comment on en parle? Qu'est-ce qu'on peut y voir quand on vient chez vous? Quel est le type de programmation que vous proposez?
Alors, on peut venir passer des moments, j'allais dire, avec des musiciens, des artistes aussi visuels, plastiques. On peut également venir pour y retrouver des ateliers parfois culinaires, parfois plutôt dans le digital, dans la création numérique, des expositions évidemment, des rencontres littéraires. Et depuis le mois d'octobre, alors on a reçu Alice Diop, on a reçu l'autrice américaine Robin Cost-Lewis, des producteurs comme Rossé, enfin voilà, des artistes et des personnalités qui viennent finalement de pas mal de disciplines et de toutes les géographies.
Alors c'est un projet du président Macron, quel était l'objectif en fait à la création de cette maison-là?
L'objectif, c'était de présenter finalement la part d'africanité de la France, dans le sens où la France a un lien indéfectible avec ce continent. Alors oui, en partie dû à l'histoire, mais l'histoire a continué. L'histoire a fait que moi-même, je suis originaire de ce continent et pourtant je suis née en France, de parents originaires de Guinée-Bissau, et qu'il s'agissait en 2025 de regarder l'histoire telle qu'elle était et de regarder aussi la façon dont la France était construite, voilà, avec ses colonies qui, un temps, ont fait l'Empire français. Et donc voilà, on est dans une nouvelle page de l'histoire, mais c'était quand même important de, je dirais, rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à la culture française, et aussi à la fois de regarder l'histoire, mais surtout de se mettre ensemble et de regarder au loin et de regarder ce qu'on pouvait construire ensemble pour le futur.
Alors on l'a bien compris, il y a une programmation à Paris, mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Mansa, c'est pas uniquement une maison qui travaille à Paris.
Exactement. L'idée, dès le départ, c'était de parler de rhizome. Comment est-ce qu'on allait nourrir d'autres géographies et comment les autres géographies allaient nous nourrir? Et donc, Mansa sort de ses murs, évidemment, et donc vient parfois s'installer en Afrique, parfois dans la Caraïbe. Nous étions au Brésil pour la saison France-Brésil. Et là, aujourd'hui, nous sommes au Bénin pour présenter l'un des projets phares de Mansa. Donc, c'est Kanchicha, un dôme immersif, donc une expérience immersive, un conte d'aventure qui raconte l'histoire de la reine Naong Agontimé, qui a été réduite en esclavage et a fondé un des premiers temples afro-brésiliens, voilà, là-bas au Brésil, à San Luis, dans la région du Maranhão.
Alors prenons cet exemple-là, je viens de visionner, c'est un film d'animation, on est sous un dôme et pendant 20 minutes en fait on est plongé par le son et par l'image dans une histoire qui est quand même une histoire très spirituelle. Peut-être racontez-nous comment ça marche, comment Mansa participe à ce genre de projet? Vous êtes à l'initiative, vous le produisez?
Alors nous sommes à l'initiative de ce projet, c'était un rêve un peu fou donc avec Michael Schwarzinski qui est donc le producteur de Dreamfield Factory, et en fait je viens le chercher parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur une œuvre semblable avec l'Afrique du Sud et le Kenya, alors même que Mansa n'existait pas à l'époque. Et donc on s'est dit, et si on recommençait? Mais si on recommençait en mettant un peu plus de moyens, en prenant un peu plus le temps? Et on savait que, enfin voilà, Mansa dans son ADN, comme je le disais, parle beaucoup de ses diasporas, et j'avais envie de travailler avec le Brésil sans même savoir qu'il y allait avoir cette saison France-Brésil. Et donc je dis à Michael, j'aimerais qu'on construise une histoire qui parle de l'Atlantique noir et qui relierait l'Afrique au Brésil, parce que ben voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc il me dit banco, et donc c'est là que je lui propose de travailler avec Leila Adjovi, parce que j'avais vu son travail Les routes de Yemanja, mais également le travail qu'elle a fait autour du coton et du cyanotype à la Biennale de Dakar, et je trouvais que ça tombait parfaitement. Et donc lui, Michael, me dit, et j'ai trouvé la personne pour former le duo Imparable et Joséphine de Robe. Et voilà comment l'histoire est née. Et donc, ça a mis un an. Donc, il faut d'abord monter tout un modèle économique, trouver les bons studios, écrire cette histoire et aussi... essayer d'être fidèle à la fois aux faits historiques, mais aussi d'emmener les imaginaires un peu plus loin et y apporter une touche de fiction. Et c'est pour ça qu'on a ce personnage de Dotou, qui est une Amazone, une Agodier, et qui va donc partir à la recherche de cette reine qui a donc été déportée au Brésil.
C'est un dôme qui est nomade, c'est une installation qu'on va pouvoir voir, j'imagine, dans d'autres pays d'Afrique et peut-être en France ?
Exactement, donc comme je le disais, ce dôme a d'abord, il a commencé au Brésil, au Musée des Arts de Rio, au MAR. Aujourd'hui, il est donc au Bénin, ici, à Ouida, en plein Vodun Days, et ça c'est quand même assez magique. Demain, il part à Johannesburg, donc ça ce sera pour l'été. Nous avons eu une proposition aussi pour l'Australie, et donc là, tout notre travail c'est de monter la tournée française, parce qu'on aimerait quand même que le public français puisse... aussi profiter de cette œuvre.
Peut-être un dernier mot sur le futur. Comment se présentent les prochains mois de Mansa ?
Alors les prochains mois de Mansa sont assez chargés, donc la programmation est assez intense, donc programmation musicale notamment avec notre programme Bande Sonore. Bande Sonore, c'est un moment suspendu qui nous permet de parler de musique et de replacer cette musique dans une conjoncture socio-éco-politico. Et le plus gros, ça va être la sortie de notre magazine qui va sortir au mois d'avril. Et ça, je ne vous en dis pas plus, c'est une grosse surprise. Ça va être un magazine à la fois panafricain qui va parler de sujets quand même assez large. Et pour le premier thème, comme on s'appelle Mansa, Maison des Mondes Africains, on s'est dit que le thème qui serait l'idéal, ce serait comment est-ce qu'on fait maison. Et donc voilà, c'est le premier thème de notre magazine et donc ce sera à découvrir à partir du mois d'avril.
Dernière question plus politique, est-ce que le 2027 vous inquiète ?
À titre personnel, 2027 m'inquiète comme toutes les élections présidentielles. Évidemment, quand on a des parents qui sont issus d'ailleurs... Bon, alors mon père est français, il est arrivé en France avant l'indépendance du Sénégal. Donc de fait, il était français. Ma mère n'est pas française, donc forcément, ça me questionne. Ça me questionne et en même temps, je me dis que c'est le moment, quelque part un peu, d'entrer en résistance. C'est le moment de tenir ses positions. C'est le moment de pousser la culture parce que je pense que c'est l'un des endroits qui permet justement de décloisonner, qui permet d'ouvrir les esprits. Bien sûr, j'allais dire, la conjoncture actuelle n'est pas la plus simple, mais ça va être le moment pour nous tous de serrer les coudes et d'avancer ensemble et d'essayer de construire un monde meilleur et de sortir un peu de cette... de garder l'esprit clair dans un monde qui est un peu ombrageux ces derniers temps, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie Julio Iglesias, accusée d'agression sexuelle.
Oui, le chanteur espagnol aux plus de 300 millions de disques vendus est au cœur d'une enquête menée depuis 3 ans par la chaîne de télé américaine Univision et le site d'information espagnol El Diario. Deux anciennes employées de Julio Iglesias l'accusent d'avoir commis en 2021 des attouchements, des pénétrations digitales forcées, tout en décrivant un climat de terreur et de contrôle instauré par la star, âgée aujourd'hui de 82 ans. L'une d'entre elles a déclaré, je cite, en plein 21e siècle, c'était comme de l'esclavage moderne, parce qu'il me payait un salaire, je devais faire tout ce qu'il voulait. Fin de citation. Les deux femmes ont déposé plainte pour des faits susceptibles de constituer un délit de traite d'êtres humains.
L'Arche éditeur vient de reprendre la maison d'édition féministe Mama Mélis.
Oui, d'un côté l'Arche, maison d'édition spécialisée dans le théâtre, et de l'autre Mama Mélis, maison fondée en 1984 à Genève, connue pour avoir publié des ouvrages sur la santé des femmes. Son best-seller est un manuel de gynécologie naturopathique écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Mais Mama Mélis a aussi édité des essais féministes et antiracistes comme ceux des écrivaines américaines Audrey Lorde ou Adrienne Rich. Or, l'Arche édite déjà la poésie de ces deux autrices pour Rina Nissim, la fondatrice des éditions Mama Mélis qui souhaite prendre sa retraite, il était logique de céder son catalogue à l'Arche, une maison avec laquelle elle partage des valeurs communes. À noter que la première impression du catalogue en novembre 2026 sera le livre Sister Outsider d'Audrey Lorde avec une postface de Rebecca Chaillon et Gertrude Dombori.
Et pour finir, Marie, une nouvelle directrice générale des services a été nommée à l'INA, Lucie Hazeman.
Passée par l'administration de l'Université Paris 8 durant une quinzaine d'années, elle avait rejoint l'Institut en 2019. Lucie Hazeman aura pour mission d'accompagner ces transformations et de participer à son rayonnement. L'Institut National d'Histoire de l'Art, fondé en 2001, est un établissement de recherche qui organise des colloques et des conférences. Il met par ailleurs à disposition des étudiants, des chercheurs et des professionnels de l'art une collection de 180 000 documents situés au sein de la bibliothèque Richelieu à Paris.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.